Alors quel plaisir ce matin d'être ici. Bienvenue à chacun. Installez-vous confortablement. Pour cette matinée particulière par rapport à la maison de prière, par rapport à la tente de la rencontre, comme Luc l'a dit en introduction. Alors avant de passer à une partie plus pratique, on va simplement rappeler en quelques mots la vision. Alors il y a un PowerPoint qui va s'afficher maintenant. Merci beaucoup à l'équipe technique. Donc la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 56, 7, repris dans Matthieu 21, Marc 11, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Et le transparent suivant, « Pourquoi est-ce qu'on voudrait louer Dieu 24 heures sur 24 ?» Alors ça ne se fait pas ici encore, ce n'est pas un but, même pas à moyen terme, puisque l'investissement est énorme. Mais en tout cas, cette idée de louer Dieu, tout d'abord, eh bien, ce n'est pas un mouvement qu'on vit simplement ici à Guebwiller. Ce n'est pas une nouvelle mode. C'est vraiment un mouvement puissant de Dieu. Comme pour les écoles chrétiennes, il y a une trentaine d'années, c'est un mouvement puissant de Dieu qui balaye la surface de la planète, de la terre, où il appelle les chrétiens à se mettre à genoux pour prier. Il appelle les chrétiens à se consacrer, à se retrouver dans son intimité, à considérer leur voix, comme nous le dit Agé, et à mettre simplement Jésus-Christ, son trône, en priorité. Alors, de nouveau, je crois que c'est bien de le rappeler, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu fait, ce n'est pas pour balayer ce qu'il y avait d'avant, ou pour se dire on faisait faux, ou bien « Oh, qu'est-ce qui se passe, je me suis trompé ». Non, pas du tout. Il y a cette approche positive de se dire « Tiens, Dieu fait quelque chose, Dieu fait quelque chose de nouveau, je veux y entrer. Il y a peut-être certaines choses à redresser, à faire autrement. Alléluia, parce que Dieu est un papa, il est un enseignant, donc il nous corrige aussi dans son amour et sa grâce, c'est un acte d'amour. Mais il n'y a pas un jugement sur ce qui se faisait avant. » Et je crois que c'est important de le dire. Alors, pourquoi le louer? Tout d'abord parce que dans Apocalypse 4, 11, on trouve ce passage, « Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Et aussi, « Car tu as créé toutes choses. » Et on trouve dans ce livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, ce qu'on trouve déjà au départ de la Bible, donc 66 livres auparavant, à la création. Dieu commence par créer le monde et il voit que c'est bon. Et dans les écoles chrétiennes, ce même mouvement a commencé aussi en remettant le Dieu créateur au milieu de l'attention. C'est ce que les écoles publiques ont commencé plus ou moins à enlever aussi. Lorsqu'il n'y a plus de créateur, il n'y a plus de création, il n'y a donc plus d'adoration. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté que l'existence et la vie leur ont été accordées. Dieu a créé toutes choses et il les soutient aussi. Il n'a pas juste lancé son horloge comme une horloge suisse qui tourne très très bien et ensuite on n'a plus besoin de s'en occuper. Mais il est là chaque jour, il donne l'ordre au soleil de se lever. Chaque seconde, il intime l'ordre afin que nous respirions et que nous puissions courir de ci, de là, dans les locaux de l'église avec joie. On trouve cette maison de prière, ce lieu de rencontre, cette tente de la rencontre dans le jardin d'Éden, Genèse 2,15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Et cultiver, c'est ce terme hébreu abad, référence 05647, pour ceux qui prennent des notes. Et dans 2 Chroniques 33,16, on trouve ce même terme. Il rétablit l'autel, lieu de la présence de Dieu, et ordonna aux Judéens d'adorer le Seigneur Dieu d'Israël. Ce terme garder, c'est shamar. Je vous passe la numérotation. Et on trouve les mêmes termes que pour le tabernacle de Dieu. Donc, ce jardin qu'il a créé, qu'il a considéré comme beau, et qu'il considère toujours comme étant beau, on le retrouve dans toute la parole de Dieu, notamment dans le Cantique des Cantiques, et aussi à la fin, on retrouve un jardin, on retrouve un fleuve, on retrouve l'arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Alors, voyons un petit peu dans ce cheminement au travers de la parole de Dieu, où est-ce qu'on trouve cette maison de prière, ce tabernacle, cette tente de la rencontre, puisqu'il y a plusieurs termes qui sont tous un petit peu différents, qui ont leur connotation, mais qu'on va utiliser ici un petit peu comme synonyme. Donc, on a une vie de prière, par exemple, de Daniel, Daniel 6, 10. Et trois fois le jour, eh bien, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Donc il a une bonne habitude, c'est de prier son Dieu trois fois par jour, et voilà que les temps de crise surviennent, et il a cette bonne habitude qu'il garde, et donc lorsque les temps de crise surviennent, il n'est pas pris au dépourvu, mais il a ce fondement, et tac, il retrouve ses bonnes vieilles habitudes. Daniel a régné dans un des empires les plus cruels qui soient pendant plus de 70 ans. Au milieu d'une société corrompue et idolâtre, Daniel n'a jamais fait de compromis. Il est resté pur et fidèle au mépris de sa propre vie et des châtiments les plus infâmes, hein, brûlé ou bien lancé au lion, etc. On trouve un peu plus loin le tabernacle de David, donc la maison de prière, temps de la rencontre, rien de nouveau sous le soleil. 1 Chronique 23, 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges. 1 Chronique 23, 5, 4 000 portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits, donc pas moi, hein, celui qui s'exprime, pour célébrer. Et ensuite, dans 1 Chronique 23, 13, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils, à perpétuité. Pour offrir les parfums devant l'Éternel, ces parfums qui nous parlent de prière aussi, on retrouve ça dans l'Apocalypse, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Le tabernacle de David encore, on trouve cette maison de prière comme quelque chose de communautaire, puisque c'est vrai finalement, on peut très bien prier à la maison, on peut très bien prier dans la rue, on peut très bien prier au travail, évidemment, gloire à Dieu, prier sans cesse. On peut prier par l'esprit et par l'intelligence. Mais le tabernacle de David, c'est un lieu particulier où il y a justement l'aspect communautaire. Il y a cette unité, comme Huguette le partageait la semaine passée. Lorsque tout le corps donne ce coup de poing dans les forteresses, il y a une puissance qui est démultipliée. Alors donc, le tabernacle de David, on trouve encore dans 1 Chronique 23-24, ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, 1 Chronique 23-30. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Alors, évidemment, si on a l'impression que l'Ancien Testament, c'est du passé, ça ne va pas beaucoup nous parler. Parce qu'on a toujours cette image aussi quand on lit les textes d'histoire, que c'était un peuple un peu barbare, qu'ils n'étaient pas aussi intelligents que nous, qu'ils n'avaient pas très bien compris ce qui se passait, et puis que du coup, ils faisaient des pratiques un peu barbares. Alors c'est clair que si on a ces pensées-là, ça ne va pas le faire. Et je sais que personne ici n'a cette pensée-là. Je le disais juste en passant au cas où ce serait radiodiffusé ou enregistré. Mais comme nous, on sait que la parole de Dieu, c'est le tout, les 66 livres, et on sait que l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est simplement une suite, c'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu méchant dans l'Ancien Testament et puis un Dieu gentil dans le Nouveau Testament. Donc on peut se nourrir de ce qu'ils ont fait. Et Dieu a toujours ce désir que jour et nuit, il y ait cette adoration, qu'il y ait ce style de vie, de consécration, de le mettre en premier, de le mettre en priorité. Alors après, il y a bien sûr différentes manifestations. L'attente de la rencontre ne va pas résoudre tous nos problèmes. Ce n'est pas la potion magique, ce n'est pas la panacée, mais c'est un outil puissant, c'est un outil que Dieu donne à son peuple. Alors, on serait bête de s'en priver. Ici, j'ai un ami qui a posté sur Facebook récemment, Isaac Smith, donc c'est le petit frère de Isaac Newton. Non, ce n'est pas vrai. David ne s'est pas préparé la nuit précédant la défaite de Goliath. Ce sont les années de partenariat invisible et persévérant, fidèle et régulier avec le Seigneur qui l'ont préparé pour ce jour-là. Comment pouvons-nous penser que l'onction et la confiance en notre Dieu peuvent être acquis en un instant? Nous sommes bien dans une société du tout, tout de suite. Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de ce tabernacle. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, la tente de la rencontre. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Un petit saut dans le Cantique des Cantiques. Un jardin de rencontre et d'intimité. Voilà comment ce passage, alors il peut être pris à différents niveaux, hein, dans notre relation personnelle avec Dieu, ou bien au sein d'un couple, ou bien l'Église, l'époux et son épouse. Je crois que ça peut être complémentaire, mais en tout cas on peut le prendre pour soi-même personnellement. Donc ce jardin, il est toujours là, bien des années plus tard. Donc c'est un jardin de rencontre et d'intimité. Si vous parcourez ce livre de la parole de Dieu, il est parlé des baisers de la bouche qui peuvent nous faire penser à la parole de Dieu, au verset 12, donc du premier chapitre. Il est parlé de parfums, qui peuvent être ces prières que l'on fait monter vers Dieu, des vies consacrées, ce parfum de bonne odeur, de sacrifice. Sacrifice, c'est quelque chose qui coûte, quelque chose qui a de la valeur. Il est parlé d'entraîne-moi, le roi m'introduit dans ses appartements. Donc il y a une grande intimité, une grande proximité. Et il est aussi parlé un amour plus que le vin. Alors ça, je ne sais pas si ça a été exprès écrit pour la France, hein, mais on retrouve plusieurs fois ce passage, plus que le vin. Donc j'imagine qu'à l'époque, déjà, le vin était quelque chose de très aimé et de très estimé. Alors voilà, Dieu a pensé aux Français et à d'autres dans ce passage. Au verset 9, 1-9 donc, et suivant, il est aussi parlé de cette beauté de Jésus, la description de la beauté de Jésus. On pourra y revenir parce que c'est un des moteurs de la maison de prière, c'est d'être fasciné par la beauté de Jésus. Parce que le cœur humain a été ainsi fait d'être fasciné par quelque chose. Donc si on n'est pas fasciné par Jésus, on sera fasciné par autre chose. Donc souvent, on lutte contre le péché, puisque moi-même, je suis fasciné de manière naturelle par tout, sauf par Dieu. Donc, au moment où on introduit cette notion d'être fasciné par la beauté de Jésus, alors qu'est-ce que c'est que la beauté de Jésus? On pourrait faire tout un séminaire là-dessus, mais cette fascination, c'est ce que nous recherchons au sein de cette maison de prière. Une passion, une obsession pour le royaume de Dieu. Alors, c'est complètement à contre-culture, je vous l'accorde, donc c'est assez sympa. Maintenant, on va avoir un petit peu plus de détails au sujet d'un jardin. Et c'est ma magnifique épouse qui va continuer.
Bonjour à chacun. Au fait, l'autre jour, ici, même dans la maison de prière, je disais à Dieu, est-ce que tu as quelque chose à me dire ou à me montrer concernant un fardeau que j'ai sur mon cœur par rapport à la maison de prière et notre temps? Pour ceux qui ne nous connaissent pas tout à fait ou peu, avant de faire 2 ans aux États-Unis, nous sommes toujours Suisses d'ailleurs, nous étions en Suisse, nous vivions en Suisse et nous sommes Suisses. Et nous sommes partis aux États-Unis en étant assez burn-outés, vous l'utilisez l'expression américaine, on était en burn-out total, de beaucoup trop d'activités et beaucoup trop de responsabilités dans l'église, dans l'école, etc. Et famille, parce qu'on a déjà 5 enfants nous-mêmes. Et mon fardeau sur le cœur, c'était, Seigneur, comment, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, donc on ne peut pas convaincre, mais toi, qu'est-ce que tu as à dire pour nous aider à ouvrir nos yeux sur le fait de ce que tu veux de nous chaque jour de notre vie par rapport à la maison de prière qui n'est pas une nouvelle potion magique. Et il m'a vraiment donné une image, et au fait, je réalise, c'est que maintenant que je réalise que c'est aussi une question de jardin. Est-ce que tu as mis j'ai dessiné, d'ailleurs, Uriel, tu peux juste mettre le suivant. Ah oui, donc je ne suis pas très, très un as en dessin, mais j'ai essayé de dessiner ce que je voyais. Et en Suisse, on a pas mal ça, je ne sais pas ici, mais ces petits jardins cultivés par des gens qui ont des petites cabanes et puis qui font leurs petits trucs. Ouais. Mais je voyais ça que c'était mon cœur, ma vie, où il y avait plusieurs, c'était moi, ou bien plusieurs de ces jardins bien cultivés et bien serrés, et plus on a de responsabilités, plus on a de choses dans notre vie, certains jardins prennent plus de place que d'autres, mais plus c'est rempli, et je voyais vraiment que c'était après genre clôturé, et puis que ça pouvait être la vie de chacun ici, peut-être certains ont des trous, je ne sais pas, c'est pas mon cas, et de venir amener quelque chose qu'on a sur le cœur peut avoir l'impression de dire, eh bien mes amis, je vous amène un nouveau jardin, essayez de le presser et de le rajouter dans votre culture. Et ça, c'est juste le truc, nous ayant notre background de burn-out, c'est le truc qui m'étoufferait, je pourrais dire, mais, je ne peux absolument rien rajouter dans ma vie, dans mon emploi du temps, c'est super ce que tu fais, je bénis tout ce que tu fais, je l'ai à cœur, mais moi, dans ma culture, dans ma vie, dans ce que je fais, il n'y a pas la place pour un poro de plus. Et vraiment, il y a la suite, je crois. Ah, il y avait une image à la base. Tant pis, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Au fait, j'essaie de vous expliquer ce que j'ai vraiment vu. Ouais, tu peux revenir sur celui de base. Et je crois que vraiment Dieu veut nous parler et parle à nos cœurs, si vous le désirez. En tout cas, moi, ça m'a parlé dans mon vécu et dans mes journées d'aujourd'hui encore. C'est que ce n'est pas une question de rajouter, c'est une question de changer. Et ça, c'est hyper important pour ce que nous, on a vécu dans les 2-3 dernières années, pour qu'on comprenne ce que Dieu veut vraiment faire. Il veut ramener, j'allais dire l'église au milieu du village, c'est une expression qu'on a, je ne sais pas si vous l'avez, mais nous, on l'a en Suisse. Et il veut ramener sa présence au milieu de notre culture de jardin. Et c'est comme le jardin d'Éden. Je voyais Dieu qui, finalement, en enlevait quelques-uns, qui sont peut-être beaux, qui donnent peut-être des bons fruits, mais qui empêche finalement Dieu de venir avec une présence journalière forte dans notre vie. Et au fait, je voyais qu'il en enlevait quelques-uns doucement, pas pour nous heurter, nous faire du mal, et que c'est ce qu'on appelle émonder quelque part, et il mettait de nouveau son jardin et sa présence au milieu, celui que lui allait cultiver. C'était, je voyais Dieu qui lui-même, contrairement à là où on voit que c'est nous qui semons et c'est nous qui arrosons, et que des fois on arrive dans de l'activisme, même si ça donne des bons fruits, je voyais vraiment Dieu au centre qui commençait à cultiver son propre jardin, c'est-à-dire cette présence de Dieu qu'on a dans son temple. Et de là, de cette culture qui prenait de la place, effectivement, mais c'est Dieu, les petites graines, les fruits qui commençaient à pousser, donnaient des graines que Dieu semait lui-même dans nos jardins autour, qui est par exemple mon couple, qui est par exemple mes enfants, qui est par exemple mon travail, qui est par exemple, etc. Je vous laisse voir dans vos propres vies. Et je peux vous garantir que pour nous, on est toujours en chemin, mais ça fait toute la différence. Il y a des choses qu'on a dû, dans la douleur ou pas, ça dépend, laisser Dieu enlever ou pousser pour faire un changement et pas un rajout. Parce que rajouter quelque chose peut nous sembler tellement étouffant ou lourd, malgré le fait qu'on est d'accord avec tout ce qui se fait sous le soleil ou certaines choses ou cette vision. Et là, je crois vraiment que Dieu veut parler à nos cœurs. Il veut revenir à l'état du jardin d'Éden où il était en communion permanente avec nous. Et donc le dessin que j'avais fait montrait vraiment ce jardin de présence de Dieu au centre, de quoi émanait tout le reste. Je peux vous dire que moi, il y a énormément de choses que j'ai fait dans les dernières années de ma vie avec un cœur rempli de sincérité et d'amour et d'adoration pour Dieu qui, si je le fais maintenant, aura nettement plus de puissance et de fruits parce que j'ai laissé Dieu d'abord faire la place et semer lui-même, ça a beaucoup plus d'impact et de puissance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes qui donnent des fraises, mais si c'est Dieu qui vient et qui le fait, les fraises, elles vont devenir nettement plus grosses. Et je voulais vraiment vous laisser cette pensée par rapport à... Je sais qu'ici, on est aussi dans une région où c'est très actif, et c'est quelque chose que j'ai vraiment dans mon cœur, étant donné qu'on a aussi ce background-là, et que je veux vous laisser méditer. Je crois que Dieu veut vraiment parler à nos cœurs. Il ne parle pas de rajout, il parle de changement.
Merci beaucoup de l'expression. Et oui, on peut l'applaudir. De l'expression s'occuper de ses choux, hein. Ok, on continue avec la maison de prière dans Actes G. Donc, si on lit Actes G 1, verset 2, et je vous propose de prendre ce passage. On va s'y arrêter un petit moment. Acte 2 est suivant. C'est la page 1273. Elle marche toujours, celle-là. Hein? Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 2. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous, verset 4, d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai. Et j'aimerais qu'on reprenne verset par verset. Si on regarde le verset 2, on a ici un peuple rebelle. On a un peuple qui ne suit pas les voies de Dieu. Ça peut être nous, ça peut être ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais je crois que ça s'adresse premièrement à l'Église. Alors, pour que personne ne se sente culpabilisé, je le prendrai pour moi. Voilà, Eric est rebelle. Ce n'est pas le moment, j'ai autre chose à faire, je suis bien assez occupé. Et pourtant, verset 14, Dieu dit clairement, c'est un kairos, c'est un temps de Dieu, c'est le moment. Et là, il pose cette question rhétorique, puisqu'il ne s'attend pas vraiment à une réponse. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Donc on dit, c'est pas le temps, Eric dit, c'est pas le temps, et je m'occupe de mes petites affaires. Ça peut être du ministère, ça peut être des choses très bien, ça peut être nos maisons, nos activités, ça peut être nos biens matériels, etc. Donc des choses parfois tout à fait louables, mais il nous dit, est-ce le temps d'habiter dans vos demeures? Donc, au verset 14, il y a un constat d'échec, la maison est détruite. Au verset 15, il y a un ordre qui est donné. Donc il y a un constat, puis il y a un ordre. Considérez attentivement vos voies, réfléchissez. Oui, excusez-moi, oui. Verset 1, chapitre 1, verset 5. Considérez attentivement vos voies. Donc c'est écrit là si jamais je me trompe. Ensuite, on continue. Ce constat d'échec, il est en trois parties. Tout d'abord, ils sèment beaucoup. Donc ce sont des gens qui sont actifs. Ce sont des gens qui agissent. C'est Eric, il agit en tant que chrétien. Il fait de son mieux. Il sème beaucoup, beaucoup de travail. Ecclésiaste nous dit de semer. Mais malheureusement, on recueille peu de fruits. Alors, hélas, le constat est là. Ensuite, il y a un autre constat, vous mangez. Donc, il y a de la nourriture. Et cette nourriture, ça peut me faire penser à ce qu'on peut trouver parfois dans notre société qui est liée à l'obésité ou l'anorexie, le diabète, les maladies auto-immunes, les films dont on se nourrit, la télévision, Internet, réseaux sociaux, journaux, chat, etc. Toutes ces choses qui sont des intermédiaires, des médias. Donc, en soi, ils ne sont pas mauvais. Ensuite, il faut voir quelle est la source, qu'est-ce qu'ils véhiculent. Donc, les gens sont là, ils se nourrissent. Eric se nourrit de plein de choses, pas seulement de nourriture, mais d'informations. Mais il n'est pas satisfait, il n'est pas rassasié. Il y a un manque de repos. Ensuite, au niveau de l'habillement du vêtu, on peut être vêtu de mille et une manières. Ça peut être la mode qui nous habille. Ah, maintenant c'est les jeans serrés. Ah, maintenant c'est telle couleur. Ah, maintenant c'est les chapeaux. Ça peut être donc l'habillement ou bien vêtu de philosophie, de pensée unique, de style même, de notre culture. J'ai entendu la semaine passée quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je ne vais pas m'inviter chez vous, ça ne se fait pas. » J'ai dit « Mais oui, invite-toi chez nous, parce que ça ne se fait pas dans ta culture. » Mais est-ce que ce n'était pas toi, Luc? Je ne pense pas à toi. C'est, non, qu'est-ce que la culture du royaume dit? Nous pouvons nous parler librement et j'ai aussi la liberté de te dire oui ou de te dire non. Mais demande, demandez, vous recevrez. Amen. Donc nous, on n'est pas là pour promouvoir la culture suisse ou américaine ou française. On est là pour amener la culture du royaume. Alors bien sûr, on a nos couleurs et Dieu, il chérit nos couleurs françaises, suisses ou américaines ou autres. Hein? Guatemala, Russie, etc., etc., Allemagne, Belgique, Italie, hein, etc., Israël, il faut que je les mentionne tous maintenant, sinon il y aura des gens. Bref, donc on cherche la culture du royaume. Donc ces habits qu'on a, ça peut être aussi notre sécurité, sécurité sociale, des aides, des sécurités bancaires, hein, ça peut être plein de choses différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas chaud. Ils sont vêtus. Mais ils n'ont pas chaud. Alors là, tout le monde a trop chaud, en tout cas moi j'ai trop chaud, donc c'est vrai que j'ai un peu de peine à m'imaginer le truc. Mais imaginez-vous en plein été, hein, il neige dehors, on entend les grelots des traîneaux qui passent parce que les voitures n'arrivent plus à passer. Hein? Donc ils n'ont pas chaud. Et direct, ça m'a fait penser à la femme vertueuse de Proverbe 31. Parce qu'elle est là dans sa maison, puis elle tricote, bon, c'est la version moderne, elle tricote, hein, comme dans Chicken Run pour ceux qui connaissent. Elle tricote, hein? Et puis tous ceux dans sa maison, ils sont bien habillés et ils n'ont pas chaud. Du coup, j'ai sauté sur le Proverbe 31 et j'ai vu une description non seulement de cette femme vertueuse, mais elle est vertueuse aussi parce qu'il y a un homme vertueux là derrière. Et je n'essaie pas d'enlever la gloire de la femme en disant il y a un homme, hein? J'essaie de dire qu'ensemble, et ceci s'adresse aussi aux femmes seules ou aux hommes seuls, puisqu'à la famille de Dieu, non seulement spirituel, mais aussi pratiquement. Donc, approchez-vous d'une famille, hein, greffez-vous. Bref, petite parenthèse fermée. Donc, ce passage d'Agé m'a fait penser à la restauration de la famille. Hein, éducation chrétienne, restauration de la famille, tente de la rencontre. Ce sont des mouvements de Dieu dans lesquels nous voulons entrer, que nous voulons embrasser. La suite et la fin. Donc, la maison de prière ne se bâtira pas sans une réformation radicale de nos familles. J'ai aussi pensé à la place du Père. C'est Julie qui me partageait l'autre soir Nombre 33 à 51 à 56, où il est parlé de détruire les idoles, de faire disparaître les hauts lieux avant de pouvoir s'emparer du pays promis. Et ça m'a énormément touché parce que je crois que ça va ensemble. On ne va pas pouvoir s'emparer de ce pays promis sans aussi avoir fait des choses négatives comme Jérémie le dit aussi, détruisez. Ok, on continue dans ce périple biblique avec Néhémie. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on trouve dans Néhémie? Donc, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Le temple est donc en ruine. Il y a tout un mouvement de repentance. Donc, la repentance, ce n'est pas juste se mettre à genoux et pleurer, même si ça peut prendre cette forme-là. La repentance, selon Dieu, c'est peut-être beaucoup plus considérer ses voies et ensuite faire demi-tour et ensuite agir autrement. Donc, la repentance n'a pas besoin d'être faite rapidement parce que le Saint-Esprit veut procéder à cette métanoïa, ce changement en nous, qui fait qu'on embrasse ces choses, non pas comme un jardin de plus à rajouter, mais comme le jardin central d'où découlent toutes les choses. Dans Néhémie, toujours, il y a un rappel à l'Éternel de tes promesses, donc il y a une connaissance de la parole de Dieu et des promesses de l'Éternel pour pouvoir ensuite lui dire « Seigneur, tu as dit ceci !» Et comme le Seigneur accomplit toujours ses promesses, on est gagnant à coup sûr. Et ensuite, à un moment donné, la faveur du monde, puisqu'il y a ce roi, cet empereur qui subventionne la reconstruction du temple. Il y a bien sûr, hélas, des jalousies et des attaques. Donc ça vient nous confirmer qu'on est sur le bon chemin, parfois. Hein, on ne va pas non plus vivre en se disant, pourvu qu'on me persécute, ça viendra montrer que je suis dans le bon chemin. Néhémie, il arme ceux qui travaillent. Donc ça nous parle de bâtir, mais aussi d'être vigilant. Aussi la louange qui est une arme de combat. Et Néhémie met fin aux injustices sociales. Et tac, on retrouve ce qu'on avait dans Chronique, avec non seulement des lévites, des chanteurs, mais des juges. Qui a du juge? Qui a gagné un jambon fumé? Voilà, félicitations. À retirer à la fin auprès du stand de la boucherie Tendon. Ensuite, petit saut en avant dans le Nouveau Testament, Anne dans le temple. Regardez cette femme vertueuse. La Bible est truffée de femmes vertueuses. Et l'église Josué aussi. Et d'hommes vertueux. Anne, Luc 2, 37. Anne ne quittait pas le temple. Aujourd'hui, ce serait une folle. C'est vite vu, hein. Elle ne quittait pas le temple, il faut la faire enfermer. Ah non, elle l'est déjà. Bon ben, hein. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu nuit et jour. Probablement qu'elle dormait. Hein. La Bible, elle n'est pas toujours littérale à la virgule près, même si chaque virgule compte. Mais je veux dire, c'est l'idée. Hein. Elle servait Dieu nuit et jour. Comment? Dans le jeûne. Donc, ce n'est pas si vous jeûnez que la Bible nous dit, mais c'est quand vous jeûnez. Hein, que les autres ne le voient pas, continuez de vous laver, puis de vous coiffer, etc. Donc elle servait dans le jeûne et la prière. Donc il y a une présence constante dans le temple. Alors bien sûr, notre première réaction, mais je ne peux pas être constamment dans le temple. Bien sûr que non, on est dans une réformation. On est en train de montrer l'horizon. On est en train de dire, tendons à cela. Solideo Gloria. Donc il y a une présence constante dans le temple et il y a une priorité dans ses activités. Ça nous fait bien sûr penser à Marthe et Marie. Ça nous fait penser à cette femme au vase d'albâtre. Elle est là au service de Dieu et ce jeûne est comme une partie basique de la vie du chrétien moyen. Elle est là dans la prière. Ensuite, voyons ce que Jésus-Christ dit de cette maison de prière, de cette tente de la rencontre. Matthieu 21, Marc 11, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Donc il reprend Ésaïe, il dit « Oui, c'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours une réalité. » On ne peut pas simplement le spiritualiser. Voilà. Mais c'est quelque chose de concret. C'est comme ce jardin. Ce jardin, il existe toujours à la fin. Et très souvent, j'avais une vue de la fin du monde, qu'on serait tous un peu comme des extraterrestres, invisibles, avec des pouvoirs supernaturels, etc. Toutes ces choses que finalement, le cinéma ne sait pas quoi faire de l'Apocalypse. Et puis comme nous, on a parfois abandonné ce livre, on n'en sait rien. Mais ce jardin, il est toujours là. Dieu l'a dit, il est bon ce jardin. Il n'a pas créé toutes ces merveilles pour ensuite créer quelque chose de totalement différent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Christ? Donc, pourquoi est-ce que Jésus dit « Ma maison sera appelée une maison de prière » Le contexte, il vient d'entrer à Jérusalem, il vient d'être acclamé comme jamais par le peuple. « Waouh, Jésus, Jésus, donnez-moi un J, donnez-moi un E, donnez-moi un Zeus, ça fait Jésus, Jésus, Jésus. Hein? » Il l'acclame. Donc, on se dit « Tout va bien ». Qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, verset suivant, il y a un débat au sujet de l'identité de Jésus. C'est qui, finalement? Qui est Jésus pour toi? Et cette question-là, elle va départager le restant de ta vie. Et aujourd'hui, il y a sur terre, dans certaines sectes, des hommes qui se réclament comme étant Jésus. Et certains ont des milliers de personnes qui les suivent. Certains ne s'appellent pas Jésus, mais qui fonctionnent. Hein, les rockstars qui fonctionnent comme si elles étaient Jésus, des vedettes. Et nous avons cette question à nous poser, qui est Jésus pour nous? Le pire, c'est que la foule, au verset 11, donc 21-11, la foule croit savoir qui est Jésus. Ah ben c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Donc ils l'acclament, ils se demandent qui il est et ils répondent à la question. Qu'est-ce qui se passe direct après? Jésus entre dans le temple. Jésus entre dans le temple. Donc c'est centré sur Christ. Ensuite, il y a destruction, comme on vient de le voir dans Actes G et dans Nombre. Il chasse tous ceux qui vendent et qui achètent. Directement, il touche l'économie, comme on le trouve dans Apocalypse. Il ne pouvait ni vendre ni acheter s'il n'avait pas le signe de la bête. Comme on le trouve dans Actes G, où il leur dit, eh bien, ce n'est pas le moment de vous occuper de vos maisons, vous avez beaucoup semé, etc. Donc on touche directement à l'économie et aux activités. Ensuite, il y a renversement. Donc il y a ce constat d'aller contre l'économie. Il y a renversement de quoi? Des tables, ces tables qui peuvent représenter des lieux d'échange, de réflexion, de conspiration, de décision, peut-être des choses très bonnes, hein, qui apparemment ne sont pas diaboliques, et ils renversent les sièges qui nous parlent de nos conforts, de nos assises, de nos sécurités. Étape suivante, il y a une déclaration fondée et une proclamation. Il proclame et il leur dit en se référant à la parole de Dieu. Donc, Jésus ne vient pas en tremblant ou dans une transe, et je n'ai rien contre ça, mais il ne vient pas de cette manière-là, mais il est fondé sur les Écritures, parce qu'elles sont en lui, à cause des heures passées plongées dans la parole de Dieu. Et il peut dire, il est écrit. Et il le dit souvent, si l'autorité venait de moi, ne me croyez pas, mais mon autorité vient de mon Père. Donc il est basé sur la parole de Dieu. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Directement après, il y a l'attraction, il y a l'effet aimant. Qui c'est qui débarque dans le temple? Les aveugles et les boiteux. Et c'est les aveugles et les boiteux qui viennent, parce qu'ils ont peut-être l'humilité nécessaire, peut-être qu'ils ont le temps, parce qu'ils boitent toute la journée ou ils aveuglent toute la journée. Mais ils viennent, ils sont attirés. Et ça nous fait penser à toutes les personnes qui sont brisées, toutes les personnes qui ont de la peine, toutes celles qui sont en difficulté, mais qui le reconnaissent, je dirais, qui réalisent qu'il y a une brisure, qu'ils ont besoin de Jésus. Ils crient à Jésus. Donc immédiatement, le temple est restauré, attrait des aveugles et des boiteux. Ensuite, restauration, il les guérit. Donc solution dans le temple qui a été rétabli, des activités d'économie et de l'activisme. Directement après, des attaques. Indigné par les démons qui dansaient dans le temple, indigné par les danses de femmes à moitié nues, non. Indigné à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Il y a une indignation de voir que ce temple de Dieu, où il y a la présence de Dieu et qui attire les plus faibles, et ici devant, je me considère comme un faible, je me considère comme quelqu'un de brisé, je me considère comme quelqu'un qui lutte, mais je me considère comme un juste, je me considère comme quelqu'un de fort, mais en Christ. Mais je sais que demain, je sais que dans un mois, si je ne suis pas Christ, le verbe suivre, si je n'ai pas Christ au centre de ma vie, je ne suis pas mieux que ces personnes, je suis même pire. Donc je me vois aussi dans ces aveugles et ces boiteux. J'ai été cela, et par la grâce de Dieu, je suis debout. Ensuite, ils sont indignés à la vue des choses merveilleuses. Directement après, indignés de voir quoi? Les enfants, éducation chrétienne, famille, qui font quoi? Qui crient dans le temple, louange extravagante. Hosanna au fils de David. Et eux, ils savent qui est Jésus. Eux, ils peuvent dire. Ce n'est pas juste le prophète de Nazareth, celui qui va enfin nous affranchir des Romains. C'est Jésus, le fils de David. Ils reconnaissent la lignée. Et finalement, donc, c'est louange, les enfants qui crient « Hosanna au fils de David ». Voilà ce que Jésus pense du temple. En résumé, donc, et je fais une fusion un petit peu de tous ces passages, lorsque je réalise qui est le vrai Jésus, hein, qui dites-vous que je suis, et que je considère mes voies, destruction, bouleversement, renversement des valeurs, alors je ne peux plus fonctionner comme avant. Les délaissés, les enfants accourent au temple pour adorer Dieu et être guéris. Faisons un petit saut dans l'Apocalypse. On a encore quelques passages, ensuite on passera au temps de pratique. Apocalypse 5:8. Les quatre êtres vivants et les 24 anciens se mirent à genoux devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe. Hein, c'est la louange, version moderne, chacun d'eux avait sa guitare électrique, et des coupes d'or pleines, version moderne, avait son Tupperware tout plein, débordant, qui sont les prières des membres du peuple de Dieu, les prières qui remplissent ces coupes. Ils chantaient un cantique nouveau, louange prophétique, louange spontanée. Image suivante, Apocalypse 5:12, j'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et la puissance pour toujours. Toujours dans l'Apocalypse, si on prend l'Apocalypse en général, on voit qu'il annonce qu'il revient. Quelle vue avons-nous de Jésus? Jésus, l'homme sur son char blanc, dont la robe est tachée de sang, le sang de ses ennemis. Donc, ce n'est plus le gentil Jésus, le petit Jésus dans les tables ou dans la crèche. C'est ce Jésus qui dit « ça suffit ». C'est ce Jésus de grâce qui a dit « je vous ai averti, je vous ai donné du temps. Je suis venu encore et encore avec mon amour, comme cette poule qui veut rassembler ces bébés poussins, mais à un moment donné, Dieu nous aime tellement et nous a tellement donné un libre arbitre qu'il dit, allez-y, faites ce que vous voulez. Mais il y a le jugement de Dieu qui tombe. Il s'agit de ne pas être offensé, puisque certaines personnes veulent voir ces choses arriver et vont dire, ça, c'est pas le Jésus que je connais. Si on a une image romantique de Jésus, eh bien, il est clair qu'au moment où les plaies tombent, eh bien, on ne va pas comprendre ce qui se passe, parce que ça ne va pas ressembler au Jésus qu'on connaît. La multitude se refroidira. Nous sommes appelés à préparer l'épouse pour l'époux. Et il y a donc des jugements qui vont venir. Ensuite, il y a Matthieu 6, 10, et mon épouse va reprendre le flambeau. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. »
Rapidement, il y a quelque chose qui m'a touchée la semaine passée, alors que j'étais encore une fois en train de m'imbiber de la vision vraiment de ce que Dieu veut pour nous, alors que je l'ai déjà entendu moult fois et que je le vis. Et tout d'un coup, tac, j'ai vraiment eu une révélation une fois de plus à ce sujet-là. J'ai réalisé que la maison de prière, le temple, de venir dans le temple, elle a deux choses visibles à l'œil humain. Et ça, on le voit, si vous étudiez Agée, je vous conseille vraiment de lire Agée, vous voyez dans Agée 1 et 2, ce que je suis en train de vous dire, vous le voyez, c'est basé sur ce texte-là, ce que je vous dis, c'est humainement, alors que le prophète disait « regardez ce qui se passe » quand ils étaient en train de restaurer le temple, humainement, on voit vraiment que ce que ça fait de remettre la présence de Dieu, le jardin de Dieu au milieu de notre vie. Ça, la première chose visible, c'est que ça restaure ma vie. Ça restaure ma vie personnelle, ça remet les choses en place, comme j'ai peut-être dit tout à l'heure aussi. Et ça enlève ce qui est de trop ou ce que Dieu veut trier. Et et je suis guérie, et je suis délivrée, je suis touchée. La deuxième chose visible qui se voit vraiment de par le fait que Dieu est remis vraiment à sa place, c'est que ça change la société autour. De là où nous étions aux États-Unis, ils sont en 24-7 depuis 14 ans. Il y a une réunion qui a commencé il y a 14 ans, elle n'a toujours pas terminé. Elle se terminera, j'espère, pas avant le retour de Jésus. Il y a un changement radical dans la société autour. La criminalité a baissé. Les aides pour les orphelins, les veuves, les aides pour les mères célibataires. Il y a énormément de choses qui ont changé dans la société. Les gens se tournent vers Dieu. Il y a un changement radical dans la société autour. Parce que Dieu est revenu au centre, la présence de Dieu a fait un changement dans les vies, premièrement, personnelles, et deuxièmement, dans la société autour. Mais la chose qui m'a tout d'un coup le plus frappée, et c'est là que je réalise que c'est même encore plus grand que ça, et ça c'est déjà génial, c'est que, comme le dit ce verset, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, et que les choses qui sont au ciel sont les mêmes sur la terre. Et au fait, si vous lisez l'Apocalypse et plusieurs autres livres de la Bible. Au ciel, c'est une énorme maison de prière. Il y a de la louange 24-7. Les anges chantent et louent Dieu sans cesse. Il y a des instruments et des chantres partout. Ça doit être énorme. On ne réalise pas parce qu'on est ici. Mais je crois vraiment que Dieu nous appelle et s'est dit que les choses qui sont dans les cieux doivent être ici sur la terre. C'est pas jour. Est-ce que j'aimerais tellement mourir parce que c'est tellement génial là-haut et puis en attendant ici, je sais pas comment passer mon temps jusqu'à que j'ai 90 ans. Non, on est appelé à tirer les choses qui sont dans les cieux sur la terre, comme au ciel, ce qui est sur la terre, comme ce qui est dans les cieux. Et là-haut, c'est la plus grande maison de prière qui existe. Et c'est la présence de Dieu à volonté. Et Dieu veut que cette connexion, alors qu'on commence un petit nid, de là où sa présence est ici, là où 2 ou 3 sont assemblés, eh bien ça met cette connexion entre ce qui est sur la terre et ce qui est sur le ciel, ça met cette connexion de plus en plus et ça amène la puissance de Dieu sur la terre. Et je crois vraiment, je vous encourage à creuser ça et à prier. C'est le truc, alors les deux choses humaines que je vous ai données tout à l'heure, ma vie et la société, mais ça c'est le truc le plus énorme parce que spirituellement, je crois qu'on ne réalise pas encore, et moi la première, l'impact que ça fait. Et partout sur la terre, Dieu veut qu'on rétablisse cette connexion pour tirer ce qui se passe dans les cieux sur la terre et la puissance de Dieu va venir encore plus.
Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention parce que ça a été assez dense et condensé. Je vous propose qu'on puisse entrer dans un moment de pratique.